êtes sur Radio Campus Pau.
Retrouvez Campus Zoom,
l'émission qui fait le zoom sur le local. Bonjour et bienvenue, c'est Campus Zoom pour Radio Campus Pau. On se retrouve aujourd'hui avec Ernestine
et Laura. Au programme de notre émission, nous vous parlons de l'occitan, un thème local et culturel. Comme vous le savez sûrement, la ville de Pau est la capitale du Béarn. Ce dernier fait partie des différentes régions de l'Occitanie. Et non, nous ne vous parlons pas de la région administrative, mais de la région culturelle. Cette dernière s'entend sur un grand territoire qui comprend 5 régions françaises, une communauté autonome espagnole, 3 régions italiennes et Monaco. Le point commun entre toutes ces régions, c'est que l'on y parle l'occitan. Alors non, il n'existe pas seulement un occitan. Chaque région a ses spécificités. On peut entendre le béarnais par ici, le languedocien vers Toulouse, encore le provençal vers Marseille, entre autres. Commençons par un fondement. L'occitan est bien une langue et non un patois, comme de nombreuses personnes peuvent le dire. Un patois ne possède pas de prononciation propre, alors que l'occitan si. Il ne faut donc pas les confondre. Il est important de souligner qu'autour de cette langue, il existe toute une culture composée de traditions, de danses, de chants, d'événements.
Avant toute chose, nous allons faire un tour rapide de l'occitan et de l'Occitanie, de l'histoire. Tout d'abord, il s'agit d'une langue romane. Elle a donc subi les influences de l'espagnol, du français ou encore de l'italien, mais les a également influencées en retour ou en amont. L'occitan a connu son âge d'or entre le XIe et le XIIIe siècle, grâce à la littérature et surtout aux compositions des troubadours qui ont eu du succès dans toute l'Europe. À l'époque, le royaume français était séparé en deux langues, la langue d'Oïl au nord et la langue d'Oc au sud, qui a aujourd'hui donné l'occitan. L'occitan était toujours la langue principale des Occitans jusqu'à la première moitié du XXe siècle, lors de l'intensification de la substitution linguistique à la suite de politiques linguicides. En dessous, elle souffre encore du désintérêt ou de l'hostilité des États. L'estimation du nombre de locuteurs d'occitan actuels sont extrêmement divergentes selon les sources. Toutefois, l'occitan ressort comme la langue régionale la plus parlée en France. Alors que la langue, très parlée au Moyen-Âge, concurrençait le latin, de nombreuses tentatives ont été mises en place par les régimes pour faire baisser son influence et créer un sentiment de honte autour.
Langue décrite officielle en Occitanie, elle fut remplacée progressivement par le français, l'espagnol ou l'italien. Le recul de l'écrit officiel a précédé celui de l'usage oral, lié à une politique de dévalorisation et de répression, qui met la langue en danger d'extinction. Toutefois, la langue connaît un revivalisme dans les années 50, avec une volonté de la faire vivre de nouveau. La situation de l'occitan continue de changer, tant du point de vue de sa reconnaissance par les autorités que la révalorisation de la langue par les populations. En France, depuis 2008, la Constitution indique que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Depuis 1999, l'occitan fait partie des langues protégées par la loi en Italie et est devenue langue officielle au Val d'Aran depuis 1990, statut qui a été étendu à toute la Catalogne en 2006. En plus de cela, la création des calendrettes, écoles en langue occitane dans les années 80, renforce cette volonté de faire perdurer la langue et la faire connaître en commençant à l'enseigner aux enfants. Pour toutes les personnes originaires de l'Occitanie, cette tradition, cette langue et cette culture est le fondement de leurs racines. Il est donc important de ne pas laisser s'évanouir et disparaître une culture si riche et très importante. C'est pour cela que l'équipe de Campus Zoom a voulu lui dédier son émission d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons été à la rencontre de divers organismes et personnes qui font vivre la langue sur le campus palois ainsi que dans la ville.
On va tout d'abord s'intéresser à l'enseignement à la fac. Afin de faire perdurer une langue, il faut bien qu'elle soit transmise de génération en génération. Toutefois, il arrive à ce que certaines langues et cultures se perdent avec le temps et le mélange culturel. On arrête de parler notre langue pour parler celle des autres. Et quand on réalise que cela peut être une erreur, il se peut qu'il soit trop tard. On nous ravage constamment les avantages à parler une autre langue, notamment l'anglais. Et pourtant, il existe de nombreuses autres langues avec une histoire et culture plus riches. Ce sont ces langues qui risquent de disparaître malheureusement si on ne fait pas un effort pour les pratiquer. C'est pourquoi il est important de parler sa langue au quotidien avec d'autres, afin que celle-ci ne tombe pas dans l'oubli. Dans un enjeu de faire perdurer l'occitan et transmettre cette langue et culture aux générations futures, l'UPPA propose des cours d'occitan. Il est tout à fait logique pour la ville de Pau et sa fac de proposer des cours d'occitan puisque c'est une langue régionale très parlée au sud de la France. Toutefois, il existe 8 autres universités qui proposent de l'occitan. Aix, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nice, Paris 4, Paris 8 et Toulouse.
La licence proposée dans ces universités couvre tous les domaines. Pratique de la langue, écrite et parlée, linguistique, sociolinguistique, littérature, les troubadours aux jeunes poètes du XXIe siècle, histoire, civilisation, dialectologie, qui sont les différentes formes de la langue selon les régions où elle est parlée. L'occitan est également en option, comme langue vivante 3, dans le parcours licence mention langue étrangère appliquée. L'UPPA donne la possibilité à ses étudiants de passer la certification en langue de l'université Bordeaux-Montaigne, Club M, BM, B1 ou B2. Tout comme son nom l'indique, cette certification est en partenariat avec l'université Bordeaux-Montaigne. Ceci est un examen ouvert à tous qui vous permet d'obtenir la certification universitaire de niveau B1 ou B2, adossée au cadre européen commun de référence pour la langue, les CECRL. Pour passer l'examen, il faut tout de même être majeur, titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'accès aux études universitaires. L'université de Pau est également la seule université à proposer à ses étudiants un enseignement de langue sifflée, et cela depuis septembre 2015. Cette langue sifflée vient en complément à l'occitan. Cette langue était parlée par des habitants d'un petit village de la vallée d'Ossau dans les années 50. Les villageois étaient capables de communiquer à très grande distance, plus de 2,5 km, au moyen de modulation sifflée. Cette langue, qui ne portait pas de nom, est à présent appelée le langage sifflé d'As. De nos jours, les siffleurs d'As accèdent à une notoriété internationale. Cela peut sûrement être expliqué par le fait que plus personne en vallée d'Ossau ne maîtrise cette technique particulière qui permet de siffler la parole. Cependant, elle est toujours utilisée dans d'autres régions du pourtour méditerranéen au sens large, comme en Grèce et aux îles Canaries, où elle sert de base au fameux Silbo Gomero, inscrit en 2009 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.
Cette langue sifflée a tout de même été ramenée en Béarn au début des années 2010, avec pour objectif de la revivifier. Et c'est ainsi que la fac de Pau s'est vue en 2015 à proposer son enseignement, conçu comme un complément aux options de langue occitane, puisque la langue support est l'occitan. Ce cours de 12 semaines constitue une initiation au système de transposition tout à fait original, qui permet littéralement de parler tout en sifflant, en remplaçant les voyelles de la langue parlée par des modulations sifflées. Le cours, qui s'adresse aux siffleurs comme aux non-siffleurs, propose essentiellement des exercices pratiques destiné à développer d'une part une compétence active d'émission de messages, mais aussi des capacités de reconnaissance et de compréhension de modulation sifflée. Ces compétences pourront éventuellement ensuite être utilisées pour siffler d'autres langues comme l'espagnol. Ce cours est assuré par Philippe Biou, dont nous avons eu l'occasion d'interviewer. Il était impensable de faire un dossier sur l'occitan et son enseignement à la fac sans l'interviewer, une des personnes qui fait vivre le plus l'occitan dans le campus universitaire.
Enseignant d'occitan à la fac de Pau depuis une vingtaine d'années, Philippe Biou enseigne toutefois l'occitan depuis plus de 25 ans, après l'obtention de son CAPES d'occitan en 1996. Philippe Biou a eu l'amabilité de réserver un peu de son temps afin d'accorder cette interview à l'équipe de Campus Zoom et ses stagiaires. À l'occasion, nous lui avons posé quelques questions dont la thématique était bien évidemment l'occitan. Il serait compliqué d'avoir le chiffre total d'étudiants ayant pris l'occitan dans toutes les facs qui les proposent, donc notre première question s'est focalisée sur le campus de l'UPPA. Et la question était la suivante, combien d'étudiants prennent l'occitan dans le cadre de leur parcours universitaire?
Jusqu'à présent, c'était entre 100 et 150 étudiants par an. Donc à mettre en regard avec le nombre total d'étudiants à l'université qui est autour de 10 000.
Bien que cela ne représente pas grand monde si on compare au nombre d'étudiants à l'UPPA, c'est un nombre non négligeable pour une langue régionale. Toutefois, nous savons que l'enseignement de la langue seule ne permet pas à une langue de perdurer. C'est pourquoi nous avons cherché à savoir par quels autres moyens l'UPPA essaye de faire vivre la langue. Voici la réponse que nous a donnée Monsieur Biou.
Oui, enfin, à l'université, il n'y a pas que l'aspect de l'enseignement qui est important, il y a aussi la recherche. Et, bon, c'est vrai que régulièrement, je suis sollicité par des collègues d'histoire ou d'autres disciplines qui effectivement sollicitent des compétences en occitan pour divers projets de recherche. Et puis j'ai ma collègue aussi, Patricia Eniger Castéré, qui est maître de conférence et qui propose à ses étudiants de master des sujets en rapport avec l'occitan.
Bien évidemment, l'UPPA et ses étudiants ne sont pas les seuls à essayer de la faire vivre. La ville de Pau fait de son mieux également. Mais nous y reviendrons plus tard. Bien que chaque langue et son histoire soient importantes, il est normal que certaines langues s'éteignent avec le temps. Alors, pourquoi est-il important de s'impliquer dans la survie de cette langue?
Alors, est-ce que c'est important? Oui, peut-être. On peut très bien vivre sans occitan, sans non plus s'impliquer dans sa survie. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai appris l'occitan plutôt tard, parce que j'ai toujours entendu l'occitan autour de moi, mais je fais partie de ces générations à qui on n'a jamais parlé occitan. Donc l'occitan, ça a été aussi une conquête. Donc j'ai appris à parler lorsque j'ai pris des cours à l'université à l'âge de 20 ans. Et donc, en fait, moi, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre cet héritage, voilà, qui m'a été transmis et que je me suis aussi approprié. Ensuite, on pourra vous dire que une langue, c'est une façon de voir le monde. Enfin, on pourra justifier de nombreuses manières le maintien d'une langue. Je ne sais pas s'il est nécessaire je ne sais pas si c'est important, je ne sais pas s'il est nécessaire de justifier forcément le fait de parler une langue ou de la défendre. C'est notre langue, on la transmet, puis après les gens en font ce qu'ils veulent.
Enfin, nous avons profité de cette occasion pour demander, selon lui, comment faire vivre cette langue, mais surtout sa culture. On vous laisse avec sa réponse.
Il faut d'abord parler la langue. Il faut parler, et puis ensuite, en espérant que des artistes, peut-être des écrivains, des chanteurs l'illustrent. Mais si un peuple ne souhaite plus parler sa langue, on peut rien faire. Voilà. Donc l'acte le plus militant qui soit, c'est simplement de parler, de lorsque vous rencontrez quelqu'un, de dire « Adi Chat » ou « Adi ». Bon, tout simplement. Et en espérant que comme cela a été fait ailleurs, par exemple au Pays Basque, peut-être que l'école puisse renverser la tendance et pallier l'absence pendant plusieurs dizaines d'années de transmission familiale. Voilà.
Toutefois, l'enseignement de l'occitan n'est pas la seule chose qui fait vivre la langue au sein du campus de l'UPPA. Nous pouvons compter sur l'association MEDOC, dont le nom veut dire « Mouvement des étudiants d'Occitanie ». Cette association, implantée sur le campus de l'UPPA, a été fondée en 1998 avec la création de la filière occitane. Celle-ci rassemble des étudiants de nombreuses filières, dont lettres, histoire, chimie entre autres, la rendant ainsi ouverte à tous. Son but est de promouvoir et de faire connaître la culture et la langue occitane, dans un esprit perpétuel de rencontre et d'échange. Nous avons eu l'occasion de rencontrer et interviewer le président actuel du MEDOC, Alan Poirot. Il est venu nous présenter son association et les événements organisés au sein de cette dernière.
Le MEDOC, c'est une association qui défend les droits des personnes occitanes. Donc l'Occitanie culturelle, ça s'étend de Bordeaux jusqu'à Nice. Donc l'Occitanie, c'est surtout une culture et surtout aussi une langue. Donc l'intérêt du MEDOC, c'est de défendre cette culture et cette langue.
Alors que le MEDOC est une association qui accueille tout le monde, on se demandait s'il parlait occitan entre membres de l'association.
Ça dépend. Quand on est en réunion avec le bureau du MEDOC, on parle souvent occitan, béarnais. Quand on est plutôt avec des gens qui sont nouveaux au MEDOC, par exemple quand on va à la brasserie béarnaise, des choses comme ça, c'est plus compliqué parce qu'il y a des gens qui sont allés peut-être en calandrette, des choses comme ça. La calandrette, c'est l'école et le collège en immersion en langue occitane. Donc quand c'est avec des personnes qui ont déjà pratiqué la langue, c'est plus simple. Quand c'est des gens qui s'intéressent juste à la culture, on essaye de faire le bilinguisme cordial, ce qui veut dire qu'on essaye de parler en occitan, et dès que la personne ne comprend pas, on peut réexpliquer en français, et des fois on parle tout simplement en français.
Ce serait fort dommage de promouvoir l'occitan et faire vivre cette culture uniquement au sein de l'association. C'est pourquoi le MEDOC organise également des événements sur le campus au cours de l'année.
Actuellement, on a un événement prévu avec la fac, dans le cadre d'Enfin Jeudi. Ça serait le 9 février, je pense, ou le 6, je ne sais plus. En fait, ça serait carnaval à la fac. Donc, c'est co-organisé par Enfin Jeudi et la centrifugeuse. Donc, en gros, carnaval à la fac, c'est quoi? C'est plus ou moins l'extension du carnaval Biarnes à la fac. Donc, il y aura un défilé, des fanfares, beaucoup d'étudiants déguisés. On passera sûrement dans les classes. Il y aura des confettis, ça sera festif. Il y aura de la musique. En parallèle, la centrifugeuse, elle fera en fin d'après-midi des concerts. Donc si c'est intéressant, vous pouvez y venir. Donc la communication, elle sera faite en français et en oc. Donc si ça vous intéresse de lire un peu d'oc.
Alors que le campus de l'UPPA est bien fourni en termes d'association, les étudiants peuvent avoir des difficultés à choisir une. On a cherché à savoir comment le MEDOC donne envie aux étudiants d'adhérer à leur association qui se repose du coup sur l'Occitanie.
Donc dans ce cadre-là, pendant cette semaine-là, Il y a eu les élections à la fac et on a pu parler avec plusieurs étudiants sur la question culturelle au sein du M22M. Le M22M, c'est le mouvement du 22 mars, c'est notre plateforme qui regroupe toutes les associations, dont le syndicat solidaire étudiant. Donc dans ce cadre-là, on a pu parler des questions linguistiques et culturelles. Le MEDOC était présent sur le terrain, il y avait moi, il y avait des camarades, Julien, des personnes comme ça. Et donc certains étudiants nous ont posé la question pourquoi on défend la culture à la fac. Et il y en a aussi qui ont demandé si ils pouvaient rejoindre le MEDOC, parce qu'en fait, ils n'avaient pas connaissance de l'association. Et grâce avec les élections et avec le M22M, on a pu faire développer le MEDOC à la fac. Donc là, on a pu... Il y a trois personnes qui ont rejoint le MEDOC grâce à ces élections-là. Et aussi, la question qui revient souvent, c'est... depuis 2017, la fac nous a promis des panneaux en trilingue. Parce qu'aussi, il faut se rappeler qu'il y a aussi le campus de Bayonne et, qui parle basque. Donc les panneaux en trilingue, ça serait bien pour affirmer qu'on est un campus en Béarn et qu'il y a une langue propre, une culture propre. Donc ça serait bien quand la fac referont ces panneaux qui sont dégradés déjà. Ça serait bien qu'ils appliquent leur décret qu'ils avaient fait en 2017 sur le trilinguisme sur les panneaux. Et ce qui est déjà fait à la BU.
Avant d'en être le président, Alan était un simple membre de l'association. Pourquoi avoir choisi de s'impliquer dans cette association en particulier ? Écoutons sa réponse.
Le parcours est assez différent de tous les membres du MEDOC, parce que tous, à peu près, ont eu un parcours un peu similaire, où ils étaient en Calandrette, où ils sont nés ici. Moi, j'ai un parcours un peu plus différent. Moi, mes parents, ils sont galiciens, donc c'est au nord du Portugal. Donc c'est une région assez culturellement différente de l'Espagne. Et en fait, quand je suis venu ici, je me suis forcément intéressé à la culture locale. Et je me suis dit, c'est dommage que la culture ne soit pas représentée. Donc, dès que je suis arrivé à la fac, j'ai rejoint le MEDOC. Et en parallèle, là, j'ai des cours d'occitan au CRPOC, parce que j'ai portugais à la fac. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir des cours avec Monsieur Biou. Donc, je fais des cours au CRPOC, c'est l'Institut de la langue occitane. Donc comme ça, je peux avoir mon diplôme, je peux avoir un niveau de langue assez important. Donc mon parcours est assez différent comparé aux autres, mais c'est pour ça que j'ai rejoint le MEDOC.
Nous avons terminé l'interview avec une des questions les plus cruciales. Pourquoi est-il important de s'impliquer dans la survie de cette langue ? Eh bien, voyons voir ce qu'en pense Alan.
On a pu avoir ce débat-là pendant les élections parce que nos opposants politiques parlaient d'identitarisme par rapport à l'Occitan et au Basque. Et en fait, nous, on trouve pas du tout que ça soit identitaire. On pense que la défense de la culture locale est une importance vitale pour la survie du campus et des choses comme ça. Parce que si on commence à perdre nos racines et de savoir d'où on vient, en fait, on devient rien, en fait. Donc la défense de l'occitanisme et de la culture occitane, ça peut donner des enjeux sur le campus. Par exemple, on apprend déjà une langue... On apprend plus de langues, ça nous donne des simplicités. Par exemple, si on parle occitan, on peut parler avec des gens de Catalogne. On connaît une langue latine de plus, donc ça donne des points positifs. Par exemple, à l'IPPA, depuis un an ou deux, il y a des cours d'intercompréhension de langue latine qui sont organisés par UNITA, l'université européenne. Et on se rend compte que plus on parle de langue latine, dont l'occitan, plus on a de connaissances et on peut intercomprendre toutes les langues romaines. Donc l'occitan n'est pas une langue morte, il y a beaucoup de gens qui le parlent. Par exemple, sur le campus, il y a des gens qui parlent occitan. Il y a le MEDOC qui essaye d'avoir ce bilinguisme harmonieux avec le français pour dire que c'est pas, on est en Béarn, et aussi avoir ce bilinguisme harmonieux aussi à Bayonne pour les Basques qui le demandent souvent. Donc c'est pour ça que le MEDOC défend les droits des étudiants qui veulent s'exprimer en occitan, comme le MEDOC a pu dans le passé défendre les futurs étudiants pendant la réforme du bac. Par exemple, quand ils ont supprimé les épreuves en occitan qui étaient d'actualité à cause de Parcoursup.
Nous tenons à vous informer que l'association MEDOC a pour projet de créer un festival de la culture occitane actuel du nom de Apaokei et Keiapao, qui existait déjà auparavant. L'idée serait d'organiser sur le campus palois un festival qui fait la porte belle à la culture occitane d'aujourd'hui, à travers des conférences, projections et spectacles, et créer un espace convivial autour d'un chapiteau qui rassemble les étudiants et qui permet à d'autres cultures de s'exprimer.
Enfin, la plus grande fête de l'hiver en Aquitaine est également présente sur le campus. On parle bien évidemment du Carnaval Bernais. Cette fête populaire, gratuite, ouverte, et qui vous offre une bouffée d'air pur dans un monde où l'on suffoque. Elle emporte Palois et étudiants dans une histoire fantastique qui mobilise tout le Béarn. Celle du retour d'exil de Sa Majesté, Saint Pancassar et de sa cour. Le Carnaval Bernais fait ses débuts à l'UPPR en 2016 avec le mouvement des étudiants occitans, le MEDOC, qui avait organisé 3 concerts en partenariat avec la Centrifugeuse. Cette collaboration permet au MEDOC et la Centrifugeuse de proposer des animations aux étudiants, faire vivre le Carnaval et l'Occitan. Cette année, comme mentionné plus tôt par le président du MEDOC, l'association se joint à fin jeudi afin d'amener le Carnaval à la fac.
Des activités seront proposées, comme un défilé par exemple. Les membres du MEDOC passeront dans les classes pour animer la journée et la Centrifugeuse proposera également 3 concerts gratuits pour les étudiants. De manière générale, c'est l'occasion de défiler et participer au concours du meilleur costume, tout en découvrant la culture locale. Lors du Carnaval Biarnès organisé par la ville, les étudiants sont invités à participer à la Nuit de l'Ours, soirée dédiée qui s'articule généralement entre le EDAS et la place Reine-Marguerite. Il s'agit de faire la fête au rythme de musique actuelle, de fanfare funk et de l'ours de feu, grâce à de nombreux partenariats avec les cafetiers. La soirée sera suivie par la fameuse chasse à l'ours, uniquement réservée aux adultes, qu'ils soient étudiants ou non.
Parlons maintenant de la vie culturelle hors campus. Au-delà de la vie de l'Occitan sur le campus, il existe un lieu sur Pau qui regroupe toutes les associations qui gravitent autour de la défense de la langue et de la culture. Il s'agit de la Ciutat. Il s'agit d'un tiers-lieu dans le quartier du Edas et des Halles de Pau. Dans un esprit ouvert et de partage, la Ciutat rassemble les acteurs et les activités qui s'engagent pour faire vivre la langue et la culture noust. Restaurants, coworking, médiathèques, bars littéraires, espaces de création, centres de ressources, en bref, tout ce qui concerne la culture et la langue à Pau. Nous allons donc vous faire un rapide tour des associations et des pôles qui y sont afin de vous les présenter.
Tout d'abord, parlons du CFPOC. Il s'agit du Centre de formation professionnelle en langue et culture occitane. Il a pour mission la promotion de la langue et de la culture occitane au travers de formations et de cours. Si vous souhaitez parler occitan, apprendre à le lire et à l'écrire, discuter et échanger dans cette langue, c'est vers eux qu'il faut vous tourner.
Art Brut est une compagnie artistique créée en septembre 2012 à Luc de Béarn par le groupe Artus, dans le but de produire et de diffuser les projets artistiques, culturels et pédagogiques de ses membres. Les artistes travaillent à de nombreux projets, dans le champ des musiques actuelles, en lien avec le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et plus particulièrement autour des cultures gascognes du Béarn et des Landes. Résolument tourné vers la création contemporaine, il s'efforce d'apporter une vision esthétique, neuve et singulière des musiques traditionnelles. Le congrès permanent de la langue occitane et l'organisme interrégional des régulations de l'Occitan. Soutenu par les collectivités et le ministère de la Culture, il a pour mission de contribuer à la vitalité et au développement de l'Occitan en travaillant à sa connaissance et à sa codification par la production d'outils concernant les différents aspects de la langue. Le congrès pilote également différents programmes de développement de technologies langagières, traduction automatique, synthèse vocale, entre autres.
L'association LIGAMS a été créée en 2016 dans le but d'organiser un événement d'envergure qui permette de créer du lien et de faire vivre la langue. C'est ainsi qu'est née la PASEM, un relais pédestre sans classement qui parcourt la Gascogne sans interruption, de jour comme de nuit. Elle a lieu tous les ans, selon un circuit à chaque fois différent. Un témoin, qui symbolise la langue nouste, est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il est possible de soutenir en achetant des kilomètres. Le montant récolté permet de financer des projets en faveur de l'Occitan. Enfin, parlons de Pernoust. Pernoust est une association dont l'objet est le développement de la langue occitane. C'est par l'édition de livres d'auteurs en occitan ou bilingue que Pernoust facilite l'accès à la langue. Mais c'est aussi grâce à la bibliothèque publique située à Orthès, au local de l'association, où plus de 2200 titres sont disponibles. Comme vous pouvez le constater, différents aspects sont mis en avant, que ce soit la langue, en termes de linguistique, la culture musicale ou encore l'écriture.
Encore une fois, il ne s'agit que d'un bref tour pour vous faire voir les différents aspects qui sont défendus dans les différents pôles de la Ciutat. L'une des associations dont nous ne vous avons pas encore parlé, c'est celle de Carnaval, Pantalonada, également présente sur le site de la Ciutat. Parlons maintenant du carnaval bernais. Comme vu précédemment, la survie d'une langue passe également par la survie de la culture qui l'accompagne. Parmi les grands événements de l'année dans le calendrier bernais, on retrouve, comme dans d'autres régions, le carnaval. Bien entendu, autour de cette fête s'articule tout un patrimoine culturel que la ville de Pau et surtout l'association Carnaval souhaitent faire perdurer. Bien que l'événement se déroule sur 4 jours dans la ville, il y a en amont toute une préparation, à commencer par un long périple pour les personnages depuis l'Espagne et jusqu'à la capitale du Béarn. Il faut tout de même partie des 5 carnavals les plus importants de France.
Pour nous en parler, personne n'est mieux placé que Nadège Péot, présidente de l'association Carnaval Pantalonnade, qui organise le carnaval béarnais depuis maintenant 36 ans. Nous avons tout d'abord voulu savoir ce qu'était exactement le carnaval.
Alors, carnaval déjà, c'est traditionnellement, c'est une sorte de charivari. C'est-à-dire que depuis le Moyen-Âge, carnaval, c'est l'inversion des rôles, des genres dans la société. Au Moyen-Âge, on était donc dans une société où les jeunes avaient peu de parole, peu de place. Ils avaient beaucoup de mal à trouver une place dans cette société médiévale. Donc carnaval, ça leur permettait en fait d'un coup de devenir un peu les rois de la fête. C'est eux qui menaient la danse. Aujourd'hui, carnaval, c'est un moment où on peut relâcher la pression au cœur de l'hiver. C'est le moment des grands chamboulements puisque on arrive sur la fin de l'hiver. Ça annonce le début du printemps. On se calque aussi sur un calendrier chrétien, hein, puisque carnaval, c'est le dernier moment où on peut faire un peu n'importe quoi. On peut boire, on peut manger à outrance avant ces jours de carême qui vont arriver juste après Mardi Gras.
Comme Nadège nous explique, cette fête s'articule autour de nombreux moments clés et de nombreux personnages. Comme nous sommes curieux chez Campus Zoom, nous lui avons demandé de nous en dire un peu plus sur cela.
Alors bon, le personnage central de carnaval, c'est Saint-Pansard. Donc Saint-Pansard, c'est celui sur lequel on fait porter toutes les fautes, en fait. C'est lui qui représente tout ce qui va mal dans notre société. Donc c'est un personnage grossier, qui boit trop, qui mange trop, qui est infidèle, qui est mal poli, qui est outrancier. Enfin voilà, il représente tous les excès, en fait, Saint-Pansard. Ensuite, on a sa femme, Carougne. Elle va plutôt être présentée comme un personnage austère dans les écrits. C'est quelqu'un qui annonce le carême, en fait, qui arrive ensuite. Nous, on est en train un petit peu de faire évoluer ce personnage parce qu'on répond aussi à des questions de société aujourd'hui et qu'on trouve que, bah, justement, la place des femmes n'est pas celle qu'elle devrait être. Et notamment dans cette mythologie pyrénéenne, on trouve justement que ces femmes, elles sont souvent présentées sous des caractères soit outranciers, soit justement, elles ont toujours ces seconds rôles, un peu de mégère. Et nous, ça ne nous va pas. Donc le personnage de Carougne, on le fait évoluer. Et puis ensuite, il y a l'animal totémique des Pyrénées, qui est l'ours. L'ours, c'est celui qui nous annonce le printemps, donc qui descend dans la ville. Il veut renverser l'ordre, et c'est lui qui donne en fait ce départ en fait de cette folie carnavalesque qui s'empare de Pau. Bon, alors là, je viens d'en parler, hein, y a donc ces ours, cette nuit de l'ours, cette chasse à l'ours qui s'organise. Donc ça, c'est le premier temps de carnaval, le premier moment fort. Les ours descendent, ils viennent de se réveiller, ils ont faim, ils ont de l'appétit, ils cherchent des compagnons et des compagnes. Donc ils vont déferler sur la ville pour trouver par force ses compagnons et ses compagnes. Mais heureusement, les braves habitants palois ont créé un petit subterfuge, c'est-à-dire qu'ils vont changer leur rôle. Les femmes deviennent des chasseuses et les hommes se travestissent en femmes pour faire en sorte que, eh bien, justement, ces ours ne prennent pas ces femmes. Bon. Dans un deuxième temps, on va mettre à l'honneur Carougne dans une soirée. C'est le vendredi. Carougne, donc, elle va mener la danse le vendredi. C'est elle qui organise les festivités. Elle va permettre cette année à son mari de pouvoir rentrer dans la ville de Pau. Donc Saint-Pansard va rentrer dans la ville de Pau, mais c'est elle qui gagnera. C'est ce qu'on appelle la segue. La segue, donc, ce sont les barricades. Et Saint-Pansard va faire exploser ses barricades pour rentrer dans la ville. Le samedi, c'est le grand défilé. Donc, c'est vraiment le gros moment de carnaval en général. On est sur un défilé avec plus de 20 000 personnes en général à ce moment-là. C'est un défilé animé avec nos géants, avec ce qu'on appelle notre mounak, c'est-à-dire cette effigie que l'on va brûler. On a aussi, bien évidemment, Saint-Pansar qui défile, qui mène le cortège jusqu'à son procès au tribunal. Donc, la deuxième temps fort de ce samedi, c'est le procès de Saint-Pansar sur les marches du tribunal. Il va être jugé et puis, forcément, comme chaque année, il sera cramé sur la place Gramont. Et puis ensuite, on descend en bas au chapiteau pour faire la fête. Et enfin, le dimanche, c'est plutôt un temps de plus calme, de repos, où on fait ce qu'on sait faire le mieux, je trouve, ici, c'est-à-dire boire un dernier petit verre et puis surtout manger pour se retaper de ces 3 jours intenses de carnaval.
Que l'on soit locuteur, béarnais d'origine ou bien nouveau dans la ville, ce grand événement réunit chaque année un très grand nombre de personnes qui viennent faire la fête ou découvrir une culture qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est également un moment de partage entre familles, puisque le fait de se déguiser et d'assister à toute la théâtralité autour de Saint-Pansar plaît énormément aux enfants. C'est ce que nous confirme Nadège.
En totalité, sur les 4 jours, ce serait très compliqué de vous dire, parce qu'on a à la fois des défilés de rue, où pour nous c'est très compliqué de quantifier à la fois combien de personnes assistent à ces défilés, combien de personnes participent à ces défilés. On a des moments donc sous le chapiteau, donc là c'est quantifiable, hein, sous le chapiteau on est aux environs de 1300 personnes sous chapiteau, plus à peu près, on a toujours des gens autour du chapiteau quand même qui sont là. Je dirais que c'est aux alentours de 300, 400 personnes qui peuvent s'amasser. Donc ça nous fait une moyenne en fait sur site de 2000 personnes à peu près par soir. Et sur les défilés, voilà, on peut monter jusqu'à 20 000 personnes qui défilent.
Mais nous pouvons nous demander si une telle association ne se focalise que sur ce court moment dans l'année ou bien si elle organise d'autres événements autour de celui-ci ou qui n'ont aucun rapport.
Non. Parce que j'essaie d'avoir une vie privée. Et c'est très très dur. On est une équipe uniquement de bénévoles sur Carnaval. Et c'est très compliqué d'organiser autre chose que Carnaval. Cependant, on co-organise quand même le départ de Carnaval qui se passe en Espagne, à Anso, en Aragon. Puisque traditionnellement, notre Saint-Pansar, on va le chercher là-bas. Hein, il s'est réfugié côté espagnol, ce qui montre aussi les liens ici qu'on a au niveau des Pyrénées. Hein. Les Pyrénées, c'est pas une frontière, hein, c'est justement un endroit de passage. Et ça a toujours été un endroit de passage. Et on a vraiment des liens de fraternité avec les Aragonais, notamment. Donc, on co-organise ça avec donc la mairie d'Anso. On vient apporter aussi de l'aide, on va dire, technique à ce qu'on appelle les tournats, c'est-à-dire qu'on a des villes ou des villages qui nous demandent le passage de carnaval avant qu'il arrive à Pau. Donc nous, on apporte un soutien technique sur tout ce qui est, par exemple, proposition de groupes de musique ou apport de costumes. Et on peut aussi venir avec nos géants pour défiler. Et puis dernier temps fort avant carnaval, c'est le carnaval des écoles où là effectivement c'est nous qui organisons, mais en dehors de ces événements là très carnavalesques, en fait non, on organise rien d'autre.
Bien évidemment, la préparation de tout ce carnaval demande un coût conséquent, que ce soit par l'achat de costumes, les décors, la rémunération des acteurs et musiciens, etc. Nous avons donc voulu savoir comment tout ceci était financé.
Nos partenaires, ce sont des partenaires déjà institutionnels, donc on est subventionné à la fois par l'agglomération de Pau. Nous sommes financés par le département des Pyrénées-Atlantiques et nous sommes financés par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a une grosse partie de financement public. Ensuite, pour tout ce qui est les projets transfrontaliers, c'est-à-dire en partenariat avec l'Aragon, l'Espagne, là, on va avoir cette année un subventionnement européen uniquement, donc pour l'organisation de ce projet-là, transfrontalier. Et ensuite, on se finance comment ? On se finance surtout avec nos ventes à la buvette. Donc, quand on vient à carnaval, il faut consommer. Avec modération, bien évidemment.
Enfin, comme lors de toutes nos interviews, nous avons voulu savoir comment Nadège s'était investie dans ce milieu et pourquoi l'association se battait pour la survie de cette langue et de cette culture qui a failli disparaître par la faute des gouvernements.
Alors, vaste question. Déjà parce que... Il y a des gens dont c'est la langue maternelle, ou en tout cas dont c'est une langue qu'on pratique au quotidien. Moi, par exemple, l'occitan, c'est une langue que je pratique au quotidien, puisque, outre le fait que je sois présidente de carnaval, mais je suis aussi professeure bilingue. Donc pour moi, c'est essentiel de préserver cette langue déjà, parce qu'il faut préserver les métiers de certaines personnes, mais aussi parce que avec cette langue, on explique plein de choses de notre quotidien. On explique plein de choses de carnaval, mais on explique plein de choses de notre quotidien. L'endroit où on habite, hein, pourquoi on s'appelle, comment on s'appelle. Voilà, on comprend mieux le territoire où on vit quand on a la maîtrise d'une langue régionale.
Et voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur le carnaval biarnais et tout ce qui s'articule autour. Bien évidemment, nous ne pouvons que vous inviter à y participer, que ce soit pour découvrir cette culture si vous êtes nouveau dans la ville, ou pour continuer à la faire vivre si cela vous tient à cœur. D'autant plus que cela fait presque 3 ans qu'il n'y a pas eu de véritable édition du carnaval à cause des conditions sanitaires que nous connaissons tous. Alors, il est important d'aller les soutenir.
Comme vous avez pu le voir dans cette émission, la langue et la culture occitane puisent leur origine depuis un temps très ancien. Durant toutes ces années, elles ont pu construire toute une tradition autour. Cette langue a su perdurer dans le temps, malgré les différentes campagnes d'interdiction auxquelles elles ont dû faire face.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes se battent pour sa survie, et c'est leur travail que nous souhaitons souligner par ce Campus Zoom. Cette langue et cette culture font partie de nos origines, de nos racines, et la perte serait perdre un aspect important de qui nous sommes et d'où nous venons. Enfin, nous tenons à remercier le président du MEDOC, Alain Poirot, Monsieur Philippe Biou et Nadège Péot, présidente de Carnaval, d'avoir accepté de se faire interviewer.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment.
En attendant de vous retrouver, vous pourrez écouter le podcast sur radiocampuspo.fr et vous pouvez suivre Radio Campus Po et Campus Max sur Instagram. Adi chats et bon week-end à tous! Vous êtes sur Radio Campus Po.
Retrouvez Campus Zoom,
l'émission qui fait le zoom sur le local.